Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Il dirige des socialistes inquiets, déprimés, en colère ou parfois tout simplement absents. Il doit aussi tenter de réunir une gauche plus que jamais divisée et déchirée à un an de la fin du mandat de François Hollande. Ce soir, nous recevons le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir.
Bonsoir.
Et dans ce studio, Roselyne Fèvre, France 24, Lilian Alemania, Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
On va bien sûr revenir sur la loi travail, les mobilisations dans la rue. Mais avant ça, je voudrais qu'on écoute cet extrait de l'intervention de Manuel Valls hier soir. Le Premier ministre concluait un colloque intitulé « Pour un sursaut républicain ».
Il y a une forme de minorité agissante, des groupes qui sont en train de gagner la bataille. Dans d'autres temps, on aurait dit la bataille idéologique, culturelle. Les salafistes doivent représenter 1% aujourd'hui des musulmans dans notre pays. Il n'y a que, d'une certaine manière, qu'on entend. C'est quoi aujourd'hui les priorités dans cette société? Bien sûr, l'économie, bien sûr, le chômage. Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui essentiel? C'est la bataille culturelle. C'est la bataille identitaire. Parce que si nous ne gagnons pas cette bataille, le reste ne comptera pas. Le reste sera balayé.
Jean-Christophe Cambadélis, aujourd'hui, alors, c'est quoi la priorité pour la gauche? L'économique et le social, ou bien vous êtes d'accord avec le Premier ministre, le chômage, ça passe après la question identitaire?
Écoutez, moi je crois que c'est le vivre ensemble, la société décente, que c'est l'égalité réelle, la fraternité laïque, la liberté ordonnée. Tout cela doit donner sens à une société qui est éclatée, émiettée. La grande question qui est posée à la société française, c'est le vivre ensemble.
Et je crois que... Est-ce que c'est pas un concept un peu old-fashioned, un peu dépassé, un peu périmé, pardon ?
Non, je pense que c'est une bataille, car aujourd'hui, on le voit bien, il y a des gens qui veulent la grande séparation. Il y a des identitaires qui veulent, à l'extrême droite, se séparer des musulmans, et qui estiment qu'ils vont remplacer les Français de souche. Il y a des takfiristes, qui ne sont pas obligatoirement des salafistes, qui sont, eux, pour la séparation de la République, et qui professent même l'action armée, ce qui les distingue des piétistes qui sont les salafistes, même si il y a des salafistes qui passent aux takfiristes. Il y a donc dans notre société beaucoup d'éléments qui visent à la séparation. Et je dirais que le système économique, aujourd'hui, libéral, dans le cadre de la mondialisation, vise à la séparation, là, entre ceux qui sont inclus et ceux qui sont exclus. Donc, l'idée, la bataille pour une société décente, pour rassembler tout le monde dans la République, pour reprendre la formule de Manuel Valls, est une bataille majeure, mais je n'oppose pas les questions économiques aux questions de société.
Alors, vous ne les opposez pas, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que la question identitaire est prioritaire sur la question du chômage ?
C'est plusieurs questions. Moi, je fais pas d'une des questions la priorité par rapport à l'autre. Il faut mener la bataille dans tous les domaines. Et la question de l'identité, vous savez, moi, j'ai écrit il y a de cela un bon bout de temps que la question de l'identité allait tenailler les sociétés occidentales et que ça prendrait le pas sur l'égalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la gauche reculerait. Il y a longtemps que je vois ça arriver. Mais je ne vois pas mener la bataille pour la République indépendamment de la bataille économique.
Monsieur Cambadélis, vous ne voyez pas un Premier ministre qui est à l'offensive là-dessus, mais qui divise, qui utilise des mots qui peuvent aussi fracturer votre propre camp? Vous utilisez le mot d'identité, lui il utilise le mot identitaire, qui est plus fort que la simple question de l'identité.
Bon, d'abord, le Premier ministre est dans un colloque. Et dans un colloque, on développe des thèses, et il développe une thèse qui n'est pas nouvelle chez lui. On peut lui faire beaucoup de reproches, mais enfin ça, il l'a défendue depuis très longtemps, même si on n'est pas obligé, évidemment, de la partager. Il est très mobilisé par rapport à ce qu'il l'estime être, une tentative de séparation du monde musulman ou d'une partie des musulmans de la République. Moi, je développe pas la thèse comme cela. Je dis que il y a à l'évidence dans notre société des forces à la fois économiques et identitaires qui visent à briser le vivre ensemble.
Alors, vous dites qu'il y a, à l'évidence, des forces, mais là aussi, est-ce que vous rejoignez totalement le propos du Premier ministre quand vous jugez que ces forces, en l'occurrence, il parle des salafistes, sont en train de gagner la bataille idéologique dans l'islam de France ?
Alors non, je ne le pense pas. Je pense qu'ils sont en train de mener la bataille. Et encore une fois, je fais la différence avec les salafistes et les takfiris. Et je fais aussi la différence entre les mosquées dirigées par des salafistes, il y en a à peine 200, de l'ensemble des mosquées, où il y en a 2500 et quelques. Donc non, je crois que c'est faux de le dire, même s'ils sont à l'offensive. Ils sont à l'offensive, mais heureusement, ils n'ont pas gagné.
Roselyne Fèvre ? Mais on peut quand même penser que le Premier ministre, c'est quand même ce qu'il dit. Il ne jette sans doute pas de l'eau, de l'huile sur le feu pour rien. Donc si c'est vraiment cela son concept, son idée, quelle réponse cela appelle ? D'après vous.
Ah bah, moi, je ne suis pas sur cette thèse, donc je ne peux pas faire la réponse à la place du Premier ministre.
Mais non, mais il n'est pas le premier à le dire. Rappelez-vous que le ministre de la Ville, M. Caner, avait dit qu'il existait des centaines de Molenbeek en France, ce qui avait aussi créé la polémique. Donc ça fait quand même un Premier ministre, un ministre de la Ville, qui sont censés connaître leur sujet et qui décrivent de telles situations.
Donc, ils décrivent des situations et on peut aussi en décrire d'autres. Je veux dire, il n'y a pas de, sur ce terrain une parole officielle.
Vous n'êtes pas un peu dans le monde de oui-oui, vous
dans le temps, d'autant que j'ai entendu le Premier ministre contredire le ministre de la Ville sur le sujet. Donc, sans être dans le monde de oui-oui, il y a des contradictions dans la politique telle qu'elle est menée, tout du moins dans son analyse. Bon, donc je ne crois pas que l'on puisse dire qu'il y a centaines de Molenbeek en France, qu'il y ait des bars, des marchés, des bars, je parle des immeubles, des marchés ou des lieux où des gens se regroupent, c'est évident. Sans Molenbeek, d'abord, c'est une erreur d'analyse, parce que Molenbeek, c'est au centre de la ville de Bruxelles, ce qui n'est le cas dans aucune de nos villes, c'est plutôt à la périphérie que les choses se passent. Il n'y a pas de quartier bouclé, contrairement à ce que l'on dit. Là, on est dans un fantasme je trouve pas juste, même si j'ai compris ce que voulait dire notre ami Caner, qui était d'attirer l'attention sur des situations dans des quartiers. Après, ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il y a une bataille, et il a raison de souligner qu'il y a une bataille, mais dire que cette bataille est gagnée, c'est un peu rapide. Donc vous permettrez de dire que on peut déclencher une alerte sans pour autant dire que le feu a gagné toute la plaine.
Alors est-ce que ce n'est pas la droite qui a gagné une autre bataille culturelle quand on met cette question-là, la question de l'identité, à ce point au centre du débat ? On a du mal à voir quelles sont les réponses de gauche que vous apportez sur ces questions-là.
Les réponses de gauche, ce sont de remettre au centre la question de l'égalité. Et nous le faisons au niveau des quartiers. Nous avons requalifié l'ensemble des quartiers. Nous avons développé une politique de la ville, avec François Lamy dans un premier temps, puis avec Caner, Patrick Caner, que nous avons développé une politique très très forte, très importante en direction des quartiers. Nous avons massifié notre intervention. Nous avons fait en sorte que les jeunes puissent se trouver dans les quartiers les plus en difficulté des emplois. Bref, nous sommes plus que préoccupés de cette question. Et nous n'avons pas dit que c'était un no man's land et donc qu'il ne fallait pas s'en occuper. Bon, nous nous en sommes occupés. On peut estimer que c'est pas suffisant, mais nous l'avons fait. Mais ça n'empêche pas de voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. C'est d'abord des situations sociales extrêmement difficiles, dans laquelle se greffent des questions identitaires. Alors après, la gauche a toujours fait passer l'égalité avant l'identité, mais elle n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de questions identitaires. Ça existe, c'est important dans un pays que la nation, que la France, que la République. Mais nous ne concevons pas les relations sociales à travers la seule question identitaire.
Roselyne Fèvre, est-ce que vous n'avez pas... S'il y avait un mea culpa à faire, est-ce que vous n'avez pas, vous, la gauche, confondu tolérance et renoncement sur certains aspects ? Une gauche qui ne s'affronte pas toujours au réel ?
Écoutez,
que ce soit en économie ou sur les questions de sécurité ?
Moi, si je compare les choses, 15 ans de politique de droite et 50 de politique de gauche, je ne sais pas qui est-ce qui a renoncé. La gauche a mené une vraie bataille, je crois, dans ces quartiers, une bataille sociale, évidemment, une bataille laïque, assurément. Nous n'avons pas renoncé à rien du tout et nous ne nous sommes pas défilés quand les problèmes se sont trouvés posés. Que ce soit, le Premier ministre disait tout à l'heure à l'Assemblée nationale que nous avions voté ensemble, hein, droite et gauche, sur la question du voile à l'école, que nous avons voté ensemble un certain nombre de mesures dans préservant l'espace public de sa laïcité. On ne peut pas dire que sur ce terrain-là, la droite a beaucoup de mots, n'a pas montré beaucoup de faits.
Mais la gauche, plusieurs polémiques l'ont montré ces derniers mois, semble s'affronter sur la question de la laïcité et du religieux. On l'a vu sur les échanges entre Manuel Valls et Jean-Louis Bianco sur l'Observatoire de la laïcité. Ça revient au sujet de la dernière intervention d'Elisabeth Badinter quand elle parle de boycott des marques qui veulent développer des collections qui recouvriraient les femmes. C'est une question porteuse de fractures. En tout cas, un sujet que vous n'avez pas résolu.
Oui, c'est qui montre le grand retournement. Hein. Je veux dire, nous sommes passés du « il est interdit d'interdire » à « il faut interdire ». Voilà le retournement culturel, si on veut en trouver un. Hein.
Vous le regrettez, ça ?
Moi, je suis pour l'égalité. Donc, je comprends parfaitement que l'on puisse estimer et que l'on estime que les femmes sont enfermées et réduites à une situation secondaire par les fichus qu'on leur fait porter. Bien. Mais par ailleurs, il n'y a pas d'interdiction. Donc chacun a le droit de vivre comme il entend. Et je vais vous faire ce qui va vous permettre de faire une reprise. Dans ce domaine, je serai assez proche de ce qu'a dit Alain Juppé, il faut être respectueux de la diversité.
Vous craignez que de votre camp, depuis le Parti Socialiste, viennent des demandes d'interdiction du port du voile ou du foulard à l'université ou même dans l'espace public ?
On sait que déjà, Pascal Boittard, au gouvernement, avait énoncé cette question avant de reculer.
Mais oui, bien, vous savez que c'est des questions qui sont toujours agitées et qu'elles se heurtent à des décisions constitutionnelles. Donc, moi, je veux bien qu'on les agite, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, en tous les cas, le débat, puisqu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas des adolescents, qui sont des adultes, et la Constitution garantit la liberté. Bon, c'est un problème, c'est une question, c'est récurrent, ça continuera à se déployer dans la société française, parce que il y a 4 millions de musulmans, et on peut leur demander de se planquer derrière les barricades ou les portes, ils sont là, ils vivent, ils ont des éléments culturels ou cultuels dans la société française, et il faudra bien prendre ceci en compte. Mais on ne peut pas accepter non plus que des modes de vie, des modes culturels viennent s'imposer à la société dans son ensemble. Le vivre ensemble, c'est le respect conjoint, c'est-à-dire le respect à la fois de ceux qui veulent croire, mais à la fois de ceux qui ne veulent pas croire. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas la société comme cela, alors, c'est un risque que je dénonçais dans un de mes derniers livres, c'est la société libanaise. On va fracturer les sociétés. On veut qu'il y ait des quartiers dans lesquels il y ait telle communauté ou telle autre communauté. C'est le grand paradoxe, c'est qu'au nom de la République, on crée les conditions des ghettos dans la République ou des ghettos culturels.
On va passer à un autre sujet qui divise la gauche, un peu moins les parlementaires socialistes, mais en tout cas beaucoup dans la rue. Manifestation régulière contre le projet de loi El Khomri et puis ce nouveau mouvement dont on parle depuis 5 jours qui s'appelle Nuit Debout, occupation de la place de la République à Paris, d'autres places en France. J'ai cru comprendre que vous étiez allé y faire un tour dimanche soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous pensez comme certains que ça peut être un embryon d'indigné à la française ?
Vous vous souvenez peut-être que à l'époque du début du mouvement, j'avais dit que pour moi, les nouvelles formes de mobilisation étaient plus importantes et plus intéressantes ou plus indicatives que les anciennes. C'est-à-dire que la pétition d'1 million sur le net était plus peut-être forte que le nombre de manifestants classiques qui étaient venus à l'appel de la CGT.
C'est inquiétant pour vous. Ça veut dire que les partis politiques aujourd'hui ne sont plus eux qui sont porteurs de ces mouvements, de cette repolitisation.
Alors d'abord, j'ai indiqué que c'était d'une repolitisation, c'était le printemps de la repolitisation et que je m'en félicite.
Dont vous n'êtes pas un débouché.
Mais comme aucun parti. Comme aucun parti. Comme aucune représentation. Parce que il y a une, c'est ce que Habermas appelait l'agir communicationnel. C'est-à-dire que c'est les gens, ils veulent pouvoir parler entre eux, sans les médias, sans les partis institutionnels, sans les leaders d'opinion, sans les élites. Ils veulent pouvoir échanger entre eux. Mais c'est un phénomène qui, pour l'instant, n'est pas un phénomène qui a envahi l'ensemble la société française. C'est ponctuel, mais c'est très illusoire.
Ça ne peut pas avoir de débouché politique, vous pensez, comme Podemos en Espagne ?
Mais voyez comment on est, nous. On va à une vitesse incroyable. Mais laissez-les vivre, ils vont peut-être faire autre chose. Ils ne sont peut-être pas obligés de faire Podemos. Ils peuvent avoir d'autres formes d'organisation et d'intervention. Il faut absolument que un processus original de dialogue, de discussion, hors parti, hors médias, hors processus institutionnel, devienne immédiatement un Podemos pour le faire re-rentrer dans le débat politique. Non, je pense que le mouvement, si c'est un mouvement, ou cette expression, donnera ce qu'elle doit donner. On verra bien.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme en Grande-Bretagne, peut-être, même si ça a des failles, une sorte de big society, c'est-à-dire où parfois c'est la société civile qui prend le relais de l'État sur certains sujets. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle donne ?
On peut l'imaginer, mais la société française ne fonctionne pas comme cela. La puissance publique et l'État est très important. C'est très important. Il me semble que nous sommes ici dans un studio détenu par la puissance publique. C'est très important. Il y a une religion en France qui est la religion de la République et la religion de l'État. Vous voyez bien que dès que on commence à évoquer ces sujets, ça crée des tensions. Alors j'entends bien que la droite veut réduire de 300 000 le nombre de fonctionnaires au moment où la gauche augmente le point d'indice, mais je pense que cette question restera très longtemps structurante de la vie politique française. Et puis la société civile en France ne s'est jamais organisée pour peser en tant que telle. Dès qu'elle s'organise, on va en parler tout à l'heure sûrement sur la primaire, dès qu'elle s'organise, c'est pour s'adresser aux politiques. C'est pas pour agir par elle-même. C'est pour s'adresser aux politiques. Et il y en a eu des mouvements, etc. Vous vous souvenez du mouvement de Sarajevo, avec un certain nombre d'intellectuels. La première chose qu'ils ont fait, c'est de dire qu'ils allaient se présenter aux élections européennes. Et donc, on est culturellement pas dans le même tempo, si je puis dire, que les Anglais, qui ont une société civile extrêmement forte, qui ont moins grande religion de l'État, et qui ont un régime parlementaire, alors que nous, la Ve République, c'est quand même le monarque républicain que nous élisons tous les 5 ans.
C'est difficile de quand même de pas mettre ça en regard avec l'attractivité du PS qui est assez faible. Aujourd'hui, vous en êtes à combien d'adhérents ?
100 000 adhérents, ce qui fait de nous quand même de loin la première force de gauche.
Et vous en vouliez 500 000 pour 2017.
Ah mais on s'est pas fini, on n'est pas en 2017.
Et vous allez faire comment pour remobiliser 400 000 personnes en quelques mois ?
Mais je pense qu'il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'engageront dans la présidentielle, vous verrez. Après, il faut les garder. C'est tout le problème est là. Et voyez, on va lancer le 13 avril l'Alliance populaire, qui est une alliance entre des politiques, des syndicalistes, des associatifs et des citoyens. On va déployer ça sur tout le territoire. On va le démultiplier sur tout le territoire pour de manière de créer les conditions d'un débat qui ne soit plus un débat interne au parti, mais externe au parti. Vous voyez, on fait un petit peu notre république à nous.
Ce débat-là et surtout le débat pour la primaire, pour la présidentielle, on va en reparler dans la deuxième partie de cette émission, juste après les informations.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Découvrez Mardi Politique en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi Politique, deuxième partie avec notre invité ce soir, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, Roselyne Fèvre, France 24, Lilian Alemania, Libération. On va bien sûr revenir sur ce qui nous occupe tous depuis 36 heures, les Panama Papers que tout le monde regarde. Mais avant, on va parler un petit peu de 2017. Jean-Christophe Cambadélis, vous vous êtes prononcé et pour François Hollande candidat et pour une primaire. Derrière vous, ça suit un petit peu dans le désordre. Vous aviez appelé soutien de François Hollande, dont on n'avait pas entendu beaucoup de monde répondre. Manuel Valls disait dimanche que pour lui, François Hollande était le candidat logique. Donc, pas candidat naturel, qu'on n'avait pas forcément besoin d'une primaire. En revanche, et en ce qui se concerne cette primaire, un des supporters de la première heure, Daniel Cohn-Bendit, disait aujourd'hui que finalement, pour lui, ça n'était pas possible. Cite notamment les divisions à gauche, ces fameux partis qui veulent bien participer à une primaire, mais qui ne veulent pas dire s'ils soutiendraient un vainqueur, et en l'occurrence, potentiellement François Hollande. Franchement, on a l'impression qu'avant même d'être acté, voté, vous avez un conseil national Parti Socialiste sur ce sujet ce week-end. Avant ça, c'est mal parti, non ?
Écoutez, moi, je n'arrêtais pas de dire que le PS n'était pas cet ennemi de la primaire que l'on décrivait. Même s'il y a au Parti Socialiste des gens qui ne sont pas favorables à la primaire. J'ai tout de suite pensé que certains brandissaient la primaire en espérant que le Parti Socialiste dise non. Et moi, je pense qu'une primaire de toute la gauche pouvait être un moyen de rassembler l'ensemble des forces de gauche. Parce que...
Donc là, on en est loin.
Oui, mais je ne désespère pas de convaincre les uns et les autres. Parce que le problème aujourd'hui, puisque pour certains, ça ne peut pas être François Hollande, mais ce n'est pas François Hollande qui n'est pas au deuxième tour. C'est la gauche. Il n'y a personne à gauche qui peut être au deuxième tour de la présidentielle à cette étape. Donc comment on reconstruit un dispositif qui permet à la gauche d'être au deuxième tour de la présidentielle? Parce qu'on sait très bien ce que veut la droite du point de vue de son orientation. Je ne parle même pas de l'extrême droite.
Mais comment on fait pour rassembler avec un débat sur la déchéance de nationalité, une réforme du code du travail aujourd'hui qui divise la gauche jusque dans votre propre camp? C'est aussi de la responsabilité de François Hollande et du gouvernement qui va demander après à toute la gauche de se ranger derrière un candidat unique pour éviter l'élimination, de faire ce rassemblement. Et ce rassemblement se fait aussi sur du contenu, sur une plateforme commune de valeurs, ou au moins de lignes directrices communes pour 2017.
Vous savez parfaitement que ce n'était pas mon choix au point de départ, ouais. L'appel de la primaire, parce que je disais qu'il y a d'autres moyens pour participer à l'unité. Parce que précisément, ce n'est pas la primaire des idées. C'est la primaire des personnalités. Et donc, on vote pour une personnalité et ça clôt le match.
À droite, oui, M. Cambadélis, mais pas à gauche. À gauche, on fait un tri idéologique pour la primaire.
Oui, mais c'est très précisément ça qu'il faudrait faire. Mais ce qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas là la primaire des idées, on a la primaire des personnalités. On a pris le problème de cette manière-là. Donc, évidemment... à ce moment-là, les uns et les autres se sont dit « Mais enfin, on ne va pas se ranger derrière François Hollande, c'est quand même pas possible. » Mais s'ils se posent cette question, c'est qu'ils estiment qu'ils sont minoritaires au sein de la gauche, pas majoritaires. Donc ils voient bien qu'il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, François Hollande n'est pas minoritaire par rapport à ceux qui sont en compétition avec lui, dans la gauche, par rapport à Cécile Duflot ou par rapport... à Pierre Laurent, il n'est pas minoritaire.
Vous êtes incapable de vous mettre autour d'une table, de vous mettre d'accord sur une base de programme commun qui pourrait réunir tous les candidats de François Hollande à Pierre Laurent ?
Pour l'instant, nous l'avons proposé, nous avons même écrit un texte pour qu'on puisse se retrouver. Mais nous constatons, c'est difficile, le Parti communiste prépare son congrès, et on peut comprendre que c'est difficile pour lui de dire qu'à la fin, il pourrait se retrouver derrière François Hollande. Les écologistes préparent leur congrès, et il suffit de voir les motions qui sont aujourd'hui présentées pour que estimer que ce n'est pas tout à fait... positif du point de vue de la primaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Cohn-Bendit a réagi. On voit bien que c'est très difficile. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les primaires ont été vécues ou ont été présentées, pas par les initiateurs, mais par les autres formations politiques, comme une purification politique et idéologique pas par la, pour la construction d'une alternative politique à la droite. Mmh. C'est-à-dire qu'on a cherché à créer les conditions d'une sanction sur la politique qui était menée. Mais le jour où il y aura l'élection présidentielle, ce qui s'est passé sera derrière nous. Ce qu'il faut construire, c'est demain, l'avenir. Et là, nous pouvons dire, parce que nous avons assaini le pays, aujourd'hui on peut se proposer, on peut poser des questions de nouvelles conquêtes et peut-être de déployer une France nouvelle. Les autres pourront dire, il faut mener telle ou telle politique offensive sur le plan des libertés ou de l'égalité. Mais on peut se retrouver sur un certain nombre de choses. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? La gauche va s'auto-éliminer. Et à force de critiquer la gauche molle, on va avoir...
Une gauche forte.
Une droite. Une vraie droite. Hein, fausse gauche. On dit, il ne faut pas une fausse gauche, mais on va finir par avoir une vraie droite.
Roselyne Fèvre, Cohn-Bendit, dans son interview au Monde, pense que ce n'est pas possible, car dans le fond, c'est ce qui laisse entendre que la déchéance de nationalité a créé des fractures insurmontables. J'entendais Jean-Marie Le Guen, le ministre, qui dit il y a une gauche qui est dans l'indignation, qui ne veut pas s'inscrire dans la perspective de la réforme. Donc idéologiquement, on voit bien que la seule chose que vous ayez à faire, c'est de rompre avec une certaine gauche, cette gauche-là, est-ce que c'est de l'ordre du possible aujourd'hui ?
Mais vous voyez bien, d'abord...
Mais il faut muter.
D'abord, premièrement, je suis désolé, la déchéance de nationalité pour les binationaux a provoqué un débat au sein de la gauche. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'objet, puisque le texte a été retiré. Donc on ne va pas au nom du fait qu'on n'était pas d'accord sur un texte.
Mais ça a choqué quand même la gauche.
Ça a choqué. Mais vous voyez bien, moi j'essaye de faire en sorte qu'on puisse surmonter les divisions. Je ne mâchouille pas mes désaccords. J'essaye de faire en sorte que la gauche se rassemble. Pour que la gauche se rassemble, il faut passer au-dessus d'un certain nombre de divergences. Mais vous savez, moi j'ai connu dans la gauche des divergences qui étaient beaucoup plus importantes que celles que nous connaissons aujourd'hui. La divergence entre le Parti communiste, de Georges Marchais et le Parti socialiste de François Mitterrand, c'était une divergence idéologique, même de type de société, et ça n'a pas empêché la gauche de s'unifier. Donc après, il faut peut-être mettre en avant un certain nombre de questions, il faut fixer.
Est-ce qu'il y a deux gauches qui doivent rompre, en fait, c'est ça la question.
Mais ça, c'est le piège. Vous n'êtes pas qui vous parle de position
à gauche que voudrait la droite, parce que si la gauche rompt, c'est-à-dire que si, la gauche de gouvernement, pour faire vite, rompait avec la gauche critique, la gauche de gouvernement serait majoritaire sur la gauche critique. Mais les deux gauches divisées ne seraient pas au deuxième tour. Donc c'est quoi ? C'est de nous condamner nous
c'est
sommes condamnés
la situation
à s'entendre.
C'est la situation actuelle. Vous perdez les élections parce que la gauche de gouvernement
On n'en perd pas toutes les élections. Dans 5 régions, on a gagné les élections. Et donc, il faut peut-être tirer des enseignements
de cela. Vous avez perdu des voix, y compris dans ces 5 régions.
Mais on a perdu des voix.
Et vous avez gagné évidemment, parce qu'il y avait des triangulaires.
Parce qu'il y a de l'abstentionnisme. Mais je suis désolé, le tripartisme, c'est quelque chose, c'est une donnée aujourd'hui
politique.
Mais
il n'y aura pas de triangulaire à la présidentielle.
Ah non, il n'y aura pas de triangulaire à la présidentielle ni aux législatives. Hein. C'est pour ça qu'il faut créer les conditions, non pas de se rassembler au second tour, mais d'être au second tour. C'est toute ma logique et c'est pour ça qu'on lance l'Alliance populaire et si possible, évidemment. La primaire, qui serait l'élément le plus simple, parce que ça dégagerait un candidat et tout le monde se mettrait autour.
Sur le dispositif, comme vous disiez, on est sur quel type de calendrier pour une primaire ? Un président de la République, a priori, ça se décide pas très tôt. En tout cas, c'est pas son intérêt. Vous, une primaire, elle devrait se dérouler quand, vous pensez ?
Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Voilà. J'ai dit décembre, janvier, et je n'ai pas entendu de désaccord, ce n'est que le Parti communiste a dit non, ça doit se faire... au mois de septembre. Mais ils ont parfaitement compris que si vous dites faire la primaire qui commence au mois de septembre, d'abord on l'a fait face à la droite, je suis pas sûr que ce soit bien en termes de visibilité du débat que l'on doit avoir. Et ensuite, ça veut dire que le président de la République, pour les raisons que vous avez indiquées, ne peut pas se présenter. Donc on peut pas faire des astuces pour empêcher que le président de la République se présente. Donc il faut trouver une plage, un moment où il n'est pas anormal que le président se lance dans la bataille.
Vous n'avez aucun doute sur le fait que François Hollande passerait par une case primaire ?
Moi, je le souhaite, évidemment. Je n'ai pas entendu dans ses confidences ou dans ses déclarations des éléments indiquant qu'il s'y opposait. Bon, je n'ai pas entendu des prises de position de ses proches au niveau du Bureau national qui s'y opposent. Maintenant, je comprends aussi que des camarades disent, pour le président de la République, vu sa situation, vu sa position, dans un moment quand même bousculé, le terrorisme, etc., descendre pour polémiquer avec telle ou telle personnalité, ça pose un problème, et il est logique qu'il soit candidat, donc soyons tous derrière. Mais je crois que c'est une thèse qui est développée avec quelques camarades, dans le Parti Socialiste, mais je pense qu'il serait quand même plus utile pour l'ensemble de la gauche que l'on purge les débats par une primaire.
Combien de candidats socialistes il pourrait y avoir dans cette primaire ?
Ah, là, voilà une vraie question qui pose problème, que nous réglerons dans un Conseil national extraordinaire au mois de juin, si les débats commencent. Moi, je ne souhaite pas, je l'ai dit aux initiateurs de la primaire, et je l'ai dit à notre minorité, je ne souhaite pas qu'il y ait 10 ou 12 candidats du Parti Socialiste. Ça veut dire que c'est un émiettement du Parti Socialiste, ce n'est pas possible. Personnellement, je serais favorable...
Il y en a combien dans les têtes en ce moment,
il y en a pas mal, croyez-moi. Pas seulement dans les têtes, puisqu'ils passent par mon bureau pour le dire. Donc il y en a beaucoup trop.
Macron.
Non, mais Macron, il n'est pas au Parti Socialiste. Non,
c'est vrai, mais il crée son mouvement demain.
Oui, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit pour être candidat dans une primaire avec les socialistes. Suite à mon appel, il a dit sur Europe 1 que si le président se présentait, il ne serait pas candidat. Donc tout ça est quand même relatif.
Et donc combien de candidats pour vous ?
Comment ?
Combien de candidats il faudrait y avoir ?
Donc je termine. J'ai dit, moi personnellement, je l'ai dit à tout le monde, à ma minorité comme aux initiateurs, que j'étais favorable à ce qu'il y ait un seul candidat du Parti Socialiste. Alors j'entends bien que dans le Parti Socialiste, il y a des oppositions, on peut regarder ça, mais voir quatre candidats de la minorité du Parti Socialiste, j'arrive pas à comprendre. Je veux dire, s'ils sont divisés en quatre, c'est qu'il y a quand même un souci. Personne ne regarde ça. Benoît Hamon va être candidat, Marine Lienemann a été candidat, Gérard Filoche se prépare à être candidat.
Donc un seul candidat de la minorité.
Bon, j'en sais rien, meilleur. J'ai dit on discutera. Et Arnaud Montebourg se prépare à être un candidat. Bon, je veux dire, franchement, s'il y a un désaccord dans le Parti Socialiste, il n'y en a pas 5 ou 10.
Mmh. Mais qui tranchera au final de qui est candidat
ou pas ? Le Conseil national du Parti Socialiste.
Je voudrais qu'on passe à ces fameuses révélations régulières, hein, à propos de cette firme panaméenne, ce qu'on appelle maintenant les Panama Papers. Alors, pendant la campagne, tout le monde s'en souvient et rappelle régulièrement, parce que François Hollande avait eu cette phrase « Je n'ai qu'un seul adversaire, c'est la finance ». Nicolas Sarkozy, en septembre 2009, lui a vu cette déclaration « Les paradis fiscaux, c'est fini ». C'était à la veille d'un G20. Ça signifie quoi, que droite ou gauche au pouvoir, tous les dispositifs, aucun dispositif ne fonctionne ?
Bah, d'abord, vous savez qu'il y a un certain nombre de pays qui sont réputés comme ne pouvant pas être reconnus par la communauté internationale. Je constate simplement que Nicolas Sarkozy a fait retirer le Panama.
Que vous aviez hésité à le réinscrire et que nous avons remis sur la liste noire. Oui.
Donc ils sont à nouveau sur la liste noire. Bon, après, moi je ne souhaite pas qu'on s'envoie à la face, comme dans d'autres sujets, c'est la responsabilité de la droite, c'est la responsabilité de la gauche n'a pas fait, etc. On a fait une loi Sapin 1, on prévoit d'en faire une loi Sapin 2. Je constate qu'il y a des gens qui s'estiment... comme devant passer au-delà des droits du concitoyen. C'est un manquement moral et c'est un manquement financier aussi, il faut bien le dire, dans un pays qui manque cruellement de moyens. Et donc, au final, tout ça, ça se réfracte sur les plus pauvres de notre société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire face alors qu'on en aurait cruellement besoin. Donc, moi, j'ai beaucoup de mépris pour ça, hein, de cette évasion fiscale, de cette dissimulation fiscale. Bon, et je vois que ça va être le feuilleton des 15 jours à venir, où les uns, les autres vont être touchés par cela.
Juste une remarque, vous parliez du projet de loi Sapin 2, hein, donc projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption. C'était présenté la semaine dernière, les ONG spécialisées sur le sujet le jugent pas très positivement. Hein, ils pointent la suppression de la transaction pénale, des reculs sur l'encadrement du lobbying, et Transparency International notamment, jugent que voilà... Il n'y a plus grand-chose dans ce texte. Il ne faudrait pas se saisir de cette actualité pour le muscler. En tout cas, vous auriez pu aller un peu plus loin.
On peut toujours aller plus loin et ce sera l'objet du débat parlementaire. Mais je sais bien, chacun est dans son registre. Les associations, elles sont là pour pousser à aller beaucoup plus loin. Le rôle de l'État, c'est d'avancer pas à pas et de faire des choses qui soient soutenables. Mais vous ne m'avez pas posé la question... de ceux qui ont participé à cette évasion fiscale. Parce qu'on voit un certain nombre de personnalités, mais on voit quand même des personnalités représentant un parti politique qui, pour autant, dit partout que c'est la probabilité sur pattes.
Même propre, tête haute.
Voilà.
Donc, juste avant qu'on vienne au Front National, François Hollande, c'est lui qui l'a dit, il faudrait protéger les lanceurs d'alerte, sauf que c'est François Hollande, président lui-même, qui a refusé les demandes d'asile de deux lanceurs d'alerte célèbres que sont Edward Snowden et Julian Assange.
Mais la protection des lanceurs d'alerte ne veut pas dire obligatoirement faire que tous les lanceurs d'alerte de la planète soient au Parti Socialiste, vous voyez comment j'y vais, soit sur notre territoire.
Non, il y a une question de symbole, Snowden, c'est une question de symbole.
Il
lui a répondu chiche d'ailleurs.
Snowden.
Edward Snowden a répondu chiche à François Hollande.
Mais ça m'étonne pas, il a le sens de l'humour. Mais je crois que c'est un dispositif que l'Europe dans son ensemble s'honorerait de porter, pas simplement la France. Ça fait partie des batailles qu'il faut peut-être mener.
Alors sur le parti politique que vous avez vu, qui en l'occurrence le Front National, qui est visé par ces révélations, est-ce que vous faites partie des personnalités qui se disent que ça pourrait avoir un impact électoral? Est-ce que des électeurs pourraient s'en détourner?
Bah ça devrait quand même. Je veux dire, un parti qui dit...
Pas l'air d'avoir tellement confiance.
Non, mais ça devrait, dans le sens où les électeurs qui protestent contre une corruption intellectuelle ou financière de la classe politique, qui s'aperçoivent que le fondateur du Front National, une espèce de d'oncle Picsou qui planque ses lingots dans des paradis fiscaux, et que la fille en cheville avec des anciens d'extrême droite dans les facultés se dit off-système mais pas offshore du point de vue de son organisation financière. Alors, on a eu déjà Poutine qui finançait le Front National à travers ses banques, mais maintenant, on s'aperçoit que c'est le Panama qui planque un certain nombre d'avoirs financiers.
Vous savez bien que son fonds de commerce, c'est pas ça, et les électeurs, c'est pas ça qu'ils entendent.
Je crois que, évidemment, une partie des électeurs ont d'autres stimuli que celui-ci, mais on va être quand même confronté à la présidentielle. Et vous me parliez tout à l'heure de l'ensemble des candidats. Regardez quand même le paysage. Je pense qu'il y a des personnalités dont on ne met pas en cause la probité.
Bon, on arrive à la toute fin de cette émission. Il nous reste 30 secondes pour cette toute petite séquence questions courtes, réponses courtes. Vous en poserez une seule. Avec qui, à droite, partiriez-vous en vacances?
Ah, avec qui je partirais en vacances? Barouin. Parce qu'il aime le foot.
Voilà, et bien c'est la fin de Mardi Politique. Merci à vous Jean-Christophe Cambadélis. Merci à nos partenaires. Merci à Mathias Golchani pour la réalisation de cette émission.